Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Sébastien Dex, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est quelques semaines avec vous dans ces émissions hebdomadaires des clés pour grandir, une émission qui s'adresse aux parents qui ont des adolescents et puis aussi de jeunes adultes, étudiants, dans cette période du coronavirus où c'est aussi compliqué pour les grands hein, et nos étudiants en difficulté. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'orientation et malheureusement, parfois, le deuil d'une orientation, les rêves de parents sur cette orientation future, professionnelle, ou l'option aussi d'une école. Et qui dit deuil pour les parents, dit deuil aussi pour l'adolescent. Alors, quelques conseils, Sébastien Dex, vous qui accompagnez ces différents profils, que ce soit les adolescents, les parents, les enseignants, comment on accompagne et quelles sont un petit peu les pistes de réflexion que vous pourriez donner donc à des parents qui actuellement se retrouvent avec des ados en parcours sup et que l'orientation, eh bien, il va falloir faire une étape de renoncement. Comment renoncer? Comment, voilà, éclairez-nous et éclairez nos parents.
Quelle mission
C'est la mission du jour.
Oui. Alors, d'abord, je pense que c'est très important qu'on le redise aux parents qui nous écoutent, c'est que il n'y a aucun jugement dirigé vers eux. Vraiment, au contraire, le but, c'est d'essayer de les encourager et de leur montrer qu'il y a des pistes, justement, pour accompagner ces moments qui peuvent être source vraiment de difficultés, et pour eux, et pour leurs ados. Mais alors, je dirais que quand on arrive à Parcoursup, entre guillemets, lorsqu'on est devant l'ordinateur en train de répondre et de classer nos pistes d'orientation, je dirais, le boulot est fait, quoi, entre guillemets. C'est déjà presque un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. C'est-à-dire que souvent, nos ados sont porteurs de projets d'orientation qui, je vais dire, prennent plutôt leurs racines, leurs sources, dans les désirs, dans les rêves, dans les projections que nous, parents, on peut avoir pour eux et sur eux. Et ça peut être fait avec la meilleure intention du monde, bien sûr. Ça peut être fait même de manière très inconsciente. Mais n'empêche que l'important quand même, c'est d'arriver à faire que l'orientation du jeune soit le plus possible en rapport avec ce que le jeune est en tant que personne et comme il se projette dans son avenir. Parce que la vie qu'il est amené à vivre, c'est la sienne. C'est pas une vie par procuration pour ses parents.
Donc, c'est pas la vie des parents, voilà. Au fond, vous soulevez cette réflexion, quand on est parent, une certaine lucidité aussi sur son enfant.
Eh oui, la lucidité, c'est d'essayer de voir notre enfant tel qu'il est et pas comme on aimerait qu'il soit. Et ça, c'est compliqué.
Alors, sur le terrain, c'est pas toujours le cas, Sébastien.
Alors, je suis très
les parents, vous êtes parents, je suis parent, nous rêvons aussi,
nous faisons des projections aussi. On fait plein de projections.
C'est normal ?
Bien sûr, c'est normal. Mais alors, ça ne veut pas dire que, parce que c'est normal, qu'il n'y a rien à changer pour autant. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a des envies où on dit « Ah, toi, je te verrai bien là-dedans ». Mais alors là, c'est très important de prendre le temps de vérifier avec notre jeune, avec notre adolescent, si ce « je te verrai bien » correspond déjà, lui, à son désir, mais aussi si son désir correspond à ce qu'il est vraiment. Parce que quand même, une des bases, entre guillemets, je dirais, de notre malheur, c'est des fois d'avoir des désirs qui ne correspondent pas à qui nous sommes vraiment ou à ce qu'il est vraiment possible. Donc alors vous voyez bien qu'il n'y a pas de recette toute faite pour traiter ça. Ça passe par ce qu'on appelle l'accompagnement parental. c'est au jour le jour.
Et vous soulevez aussi cette grande question. Vous avez parlé entendre son désir. Est-ce que les parents sont formés parfois à cette écoute, au fond, une écoute active, profonde, sortir du rêve et avoir cette lucidité aussi même dans une oreille qui va entendre le désir de son ado?
Alors, je dirais qu'ils ne sont peut-être pas formés au sens d'avoir suivi une formation, mais...
Vous êtes formé, hein?
Oui,
vous êtes
ben
plus
oui.
que formé.
Ben c'est le cœur de mon métier.
Oui.
Voilà. Donc, j'essaye quand même, malgré tout, de l'appliquer aussi dans mes relations familiales. Mais je pars quand même du principe que c'est le parent le mieux placé, parce que c'est le parent qui vit avec son ado. Voilà. Et donc, c'est lui, théoriquement, qui devrait être capable de mieux le connaître. Voilà. Mais c'est vrai que ça demande un travail de dépouillement, on va dire, quelque part. De dépouillement de ses propres points de vue, de ses propres désirs aussi. Et c'est ça l'écoute, en fait. L'écoute, c'est rendre son oreille disponible à ce que l'autre est et ce que l'autre exprime, finalement. Donc ça veut dire faire taire un petit peu le bruit intérieur à nous-mêmes pour laisser un peu la parole et le désir de l'autre émerger.
Alors si au fond le parent ne fait pas ce travail, il reste un peu dans son désir, un peu de rêve pour son enfant, ne met-il pas son enfant, son propre adolescent, en difficulté?
Alors, quelquefois je dirais ça marche, parce que l'enfant, par chance, entre guillemets, ça peut correspondre à ce qu'il est ou à certains de ses talents. Mais malheureusement, ça arrive que le projet parental ne corresponde pas à l'enfant. Et que donc, soit ça va le mettre en situation d'échec, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir les qualités requises pour entrer dans telle ou telle filière, même si papa il est ingénieur, par exemple, ça ne veut pas peut-être dire que son fils ou sa fille va être ingénieur comme lui, en suivant la même classe prépa, avec la même classe d'ingénieur aussi. Il fera peut-être autre chose, et c'est là où il va s'éclater et vivre pleinement sa vie. Et ça veut dire aussi que malheureusement, l'enfant, l'ado, va vivre de l'échec, alors qu'il s'évertue, j'allais dire, en vain, à vouloir suivre une voie qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est très dur. Et on observe de plus en plus dans nos pratiques professionnelles des jeunes. Or, je trouve que la remise en question vient de plus en plus tôt. C'est-à-dire qui ont suivi des carrières, enfin scolaires notamment, étudiantes, qui s'installent dans un métier. Mais au bout de 2 ans, ils n'en peuvent plus. Ils sont en épuisement professionnel parce que ce n'est pas leur carrière, en fait. Et donc, le travail, c'est de les remettre finalement dans le rail que la pression familiale, souvent, ne leur a pas permis de suivre.
Vous en suivez ?
Oui, ouais. Tout à fait.
Donc, c'est
beaucoup
pour vous
de gens
de
entre,
cas que vous connaissez.
Oui, entre 25 et 35 ans, par exemple. Avant, ça se faisait souvent, on disait, vers les 50, ou, 50 ans, on va dire. Maintenant, c'est beaucoup plus précoce.
Donc, ça, c'est notre génération.
Voilà, tout à fait. Ouais, oui. Et là, la remise en question de la trajectoire professionnelle se fait de manière beaucoup plus précoce.
Et vous l'expliquez comment, vous, sociologue, psychopraticien?
Alors,
c'est l'accélération d'un monde qui
s'accélère aussi. Oui, on peut le voir comme un progrès, moi, je pense,
oui,
quelque part.
Oui.
Je pense que nos jeunes, entre guillemets, sont de plus en plus capables de remettre en question les trajectoires établies. Donc, peut-être que c'est grâce à nous, parents aussi. Hein.
Donc, au fond, peut-être que cette maturité dont on parle s'accélère et arrive plus vite.
Or, maturité
aujourd'hui.
Et aussi...
Ils en sont, maturité affective,
oui,
émotionnelle, intellectuelle.
Il y a de ça, mais il y a aussi, je pense, que l'éducation qu'on leur donne n'est plus celle de courber les chines et de faire ce qu'il faut par devoir. Je crois que ça marche de moins en moins. Et donc, s'ils ne trouvent pas leur compte dans ce qu'ils font, même si c'est pour quitter une situation un peu dorée socialement et financièrement, ils n'hésiteront pas à partir en Ariège, par exemple, faire de la menuiserie alors qu'ils étaient ingénieurs chez Airbus, par exemple.
Et vous en connaissez.
Oui,
bon,
bien
vous
sûr.
Savez de quoi vous parlez.
Tout à fait. Oui,
je rappelle que
pas...
vous avez aussi 25 ans d'expérience, une clientèle de l'écoute. Donc, pour ces parents, là, qui écoutent cette émission très précisément sur ce sujet, au fond, vous avez parlé de dépouillement.
Dépouillement,
c'est un vrai,
oui,
dépouillement, certains,
oui,
pour certains parents peut-être actuellement,
ah oui,
parce qu'on est dans
très,
aussi dans le parcours.
Tout à fait, ça peut être très douloureux pour des parents d'abandonner une idée qu'ils ont pour leurs enfants et qui est pour eux source de réalisation, de joie, de bonheur. Mais
alors comment traverser mieux, finalement ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre et comment traverser ce deuil ?
Oui,
dépouillement finalement d'un rêve d'orientation professionnelle de son enfant.
Mais le deuil, quel qu'il soit finalement d'une personne ou d'un projet, il repose sur le fait d'intégrer un bien plus grand quelque part. Et donc, notamment, il y a une petite phrase qui résume très bien ça, c'est « réussir sa vie plutôt que réussir dans la vie ». Et je pense qu'en tant que parent, on a une valeur, ou on devrait, il me semble, avoir cette valeur, c'est que nos enfants réussissent leur vie à leur manière et de faire confiance, donc, encore une fois, à leur choix et à leur parcours.
Et là, vous replacez aussi ce terme de confiance.
Oui, parce que ça peut être très... risquer de faire confiance. Pourquoi mon fils, alors qu'il est doué en maths, en physique, nana, il ne fait pas classe prépa et une école qui lui permettrait d'assurer sa vie financièrement, mais ça renvoie à nos propres peurs, à nos angoisses. Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce qu'il va être autonome ? Ben oui, mais il trouvera ses ressources suivant son propre chemin.
En fait, merci parce que vous interrogez et c'est bon aussi d'interroger. Donc, que tous ceux qui sont parents s'interrogent, se questionnent et n'aient pas peur au fond d'aller jusqu'au bout du questionnement.
Oui, je pense que le risque principal, c'est de ne pas se poser les questions. L'avantage de se poser des questions, c'est qu'on trouve des réponses.
Et oui, donc au fond, c'est vous donner la bonne clé. Interrogez-vous, posez-vous les bonnes questions et vous aurez les réponses. Il y a toujours les réponses si on les cherche.
Si on les cherche, on les trouve.
Donc merci Sébastien Dex, l'intervenant cette semaine dans cette émission. N'hésitez pas à joindre, on peut vous appeler,
bien
un
sûr,
numéro de téléphone. Je vais redonner ce numéro de téléphone et on retrouve ces émissions en podcast avec une fiche. Votre site internet et ce numéro, le 05 61 69 79 80. Et ce site internet acpintégrative.fr. Sébastien Dex, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Nous reviendrons et nous allons parler aussi de comment réagir en tant que parent quand son enfant, adolescent, s'isole et s'isole de plus en plus. À la semaine prochaine.